votre numéro 1 provincial, N-I-K-Y Radio.
On est de retour à Prends ton gaz égal et c'est maintenant le temps d'aller de l'autre côté avec Gaston Côté. Bonjour Gaston.
Bonjour Michel, ça va bien?
Ça va très bien et toi?
Et moi ça va toujours bien aussi.
On a du beau soleil aujourd'hui. Hein?
Oui, comme toujours, je suis allé prendre ma marche avec mon petit chien et ma blonde sur le bord de la rivière. La rivière, la coule, il y a eu beaucoup plu hier et puis on le voit sur la rivière, elle est très haute puis ça coule vraiment beaucoup là.
Oui, puis en plus, une des choses, c'est que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il ventait-tu assez fort cette nuit?
Oui, absolument. Oui, les garages de toit, il y en a qui ont dû partir. Le mien, il est resté sur place. Celui de mon fils aussi, il paraît qu'il m'a dit ça ce matin, qu'il était encore sur place. Mais sûrement avec les vents, parce que la terre dégèle, donc les ancrages sont moins solides. Donc, c'est certain qu'il y en a sûrement qui sont partis quelque part.
Ah, eh bien, on va en retrouver un peu partout. Alors voilà, dis-moi aujourd'hui, de quoi on va se parler, mon cher ami?
On va parler de déchets, de vidange.
Ah, pas en deux mots, là, pas une vidange comme moi je
non,
vis.
Pas une vidange, de déchets, des vrais, vrais déchets. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos déchets? C'est un article que j'ai trouvé dans l'actualité du mois de novembre 2019. C'est un article qui s'appelle « Carburer aux déchets ». Ça a été écrit par Jean-Benoît Nadeau. Donc, en fait, nos déchets, c'est une source d'énergie incroyable. Ici, à Lévis, moi, je meurs à Lévis, comme toi d'ailleurs, ce qu'on fait avec nos déchets compostables, on fait du compost. Mais il y en a qui ont trouvé une façon de valoriser les déchets qui est un petit peu plus rentable et beaucoup plus payante même, que je dirais. En fait, ce qu'ils font avec nos déchets, il y a trois municipalités qui ont commencé vraiment à travailler là-dessus, c'est-à-dire Varennes, Saint-Hyacinthe et Rivière-du-Loup, qui, eux, ont un digesteur. Donc, ils prennent tous les déchets du bac brun, ils mettent ça là-dedans et ils font du biométhane, c'est-à-dire du gaz naturel. Il y a du gaz naturel qu'on retrouve dans le sol, qui est extrait. Évidemment, la qualité de ce gaz-là est beaucoup plus, disons... Dans le gaz extrait du sol, il y a quelques polluants, mais ils sont faciles à enlever, ce qui fait que ça donne un gaz naturel qui est à 97 à 99% très pur, donc qui peut être utilisé, transformé pour chauffer des usines et ainsi de suite. Notre gaz naturel qui est fait à partir de déchets est par contre beaucoup moins... pur. Donc, il faut le méthaniser, c'est-à-dire avec un procédé de chauffage, ça, faire en sorte qu'il soit beaucoup près de la norme de 97-99% pour qu'il soit utilisé. Ça coûte très, très cher. Donc, il y a trois usines qui ont parti le projet ici au Québec, comme je disais, Varennes, Saint-Hyacinthe et Rivière-du-Loup, qui, eux, autour d'eux, il y a 27 municipalités de la Montérégie qui sont associées à ces trois, surtout à Varennes, pour faire du biogaz partiellement purifié, comme je disais, il n'est pas vraiment pur à 100%. Okay. Tu disais quelque chose, oui?
Non, pas du tout.
OK, excuse-moi, j'ai entendu un son. On est à distance, là, ça fait qu'il y a des petits sons, ça fait que j'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Donc, finalement, pour revenir à nos déchets, donc il y a beaucoup de trucs, on parlait des bacs bruns, mais il y a aussi du fumier produit par nos agriculteurs qui peuvent aussi aller dans ce processus-là, des rebuts forestiers éventuellement, pas tout de suite, mais dans un autre projet, ça va être possible de mettre des rebuts forestiers. Et puis même, on pourrait réussir à combler les deux tiers de nos besoins en gaz naturel grâce à cette nouvelle approche d'énergie renouvelable. Parce que c'est renouvelable, des déchets, on en produit évidemment énormément. Et il y a des projets aussi à venir. On parle à Québec, ça va être bientôt au Québec, ils vont commencer à construire l'usine de biométhanisation. À Warwick aussi, il y a des projets, Saint-Étienne-des-Grès, même Montréal et Beauharnois qui ont des projets en ce sens-là aussi. En fait, le bac brun, c'est devenu un problème pour l'enfouir ou encore certains comme faisaient du compost ici à Lévis. C'était un problème. Maintenant, non seulement ce n'est plus un problème, mais c'est ce qu'on appelle même de l'or brun pour certains. Je trouve ça intéressant comme formule, de l'or brun à partir de déchets. Tu sais, vraiment, il faut le faire.
Ben oui. Ben
puis
oui.
Ça va être payant aussi. J'en parlais un peu tantôt. C'est quatre fois plus payant que Excuse-moi. Oui, c'est ça. Donc, il y a des clients qui sont prêts à payer 4 fois plus que le gaz naturel qui est non renouvelable, c'est-à-dire qu'on prend dans le sol qui, lui, n'est pas renouvelable, alors que à partir des déchets, c'est renouvelable. Donc, ils sont prêts à payer 4 fois plus parce que c'est une énergie renouvelable. Donc, pour eux, pour leur image de marque, d'avoir du gaz renouvelable, c'est payant au niveau de leur image. Donc, ça devient payant même nos déchets.
Oui, ben moi, quelque part, je crois plus au biométhane qu'au compost. Et je le sais pas avec le biométhane comment est-ce qu'il procède. J'ai pas tout lu là-dessus, mais je le sais qu'au niveau du compost, par exemple, on peut même pas. Il y a même des matières tu sais, animales ou végétales, peu importe, là. Il y en a certains qu'on ne peut même pas mettre au compost. Je te donne un exemple de la volaille crue. Si tu mets ça dans le compost, on peut contaminer des tonnes et des tonnes de compost à cause de ça. Donc, idéalement, on peut en mettre de la cuite, mais je ne sais pas s'ils ont le même genre de problématique avec quand ils ont plutôt un procédé de biométhane.
Non, le procédé de biométhane, c'est chauffé pendant même 24 heures de temps, qui fait en sorte que tout est vraiment là... devient pur, tu sais, il y a plus de problème, c'est du gaz qu'on produit là. Alors que si on met du poulet cru dans nos bacs bruns à nous, ça s'en va dans du compost. Et là, le poulet cru, évidemment, on connaît le danger d'être contaminé par le poulet. Donc, ça contamine le compost qui, si on met du compost dans nos jardins, évidemment, là, à ce moment-là, je me rappelle pas c'est quoi le poulet qui donne. La salmonelle, voilà, que la salmonelle peut être transmise après ça à cause de ce procédé-là. Et ça donne aussi un compost qui est inégal comme qualité, dépendamment des produits qui ont été mis. Tu sais, il y en a qui ont mis du poulet, d'autres qui ont mis d'autres affaires, il y en a qui mettent n'importe quoi là-dedans aussi. Donc, ça devient difficile de contrôler la qualité du compost. Par contre, la qualité du gaz peut être purifiée. Quand je dis qu'il y a des polluants là-dedans, ces polluants-là peuvent être enlevés. Évidemment, ça coûte plus cher, mais par contre, on arrive à un produit qui... On parle de 97 à 99% de pureté, ça devient du gaz. Donc, le gaz, c'est une molécule. C'est, je l'ai quelque part, c'est du que je trouve. Voyons, en tout cas, la formule chimique, là, je l'ai pas sous les yeux, mais que je l'ai quelque part dans l'article. Bon. Mais par contre, il y a un truc. C'est du CH4, voilà. Le CH4, c'est vraiment la molécule. Donc, quand on parle de molécule, c'est pas autre chose que ça. T'sais. Ça peut pas être la salmonelle peut pas être là. T'sais. Donc, par contre, si on l'utilisait pas, ce méthane-là, le méthane naturel qui sort des terrains d'enfouissement, là, c'est 25 fois plus polluant que le CO2. Donc, c'est important de l'utiliser parce qu'il y a des endroits où ce qu'ils font avec le compost, ils l'enfouissent. Donc, avec le temps, évidemment, la façon naturelle, les gaz, ça se mélange, tout ça, puis avec la chaleur qui se produit en dessous du sol, à un moment donné, ça se compacte et le gaz finit par s'échapper. Et si ça s'en va dans l'air, évidemment, là, c'est là que je disais, c'est très, très polluant. Et par contre, ce qu'ils font, souvent ceux qui réussissent pas à faire du gaz de méthane, ils le brûlent à la torchère. Donc, si tu te promènes un peu, là, puis tu vois des champs, des lieux d'enfouissement, il y a des torchères qui brûlent le gaz qui sort.
Ah.
C'est donc c'est justement pour empêcher que le gaz s'en aille dans l'air et qu'il nous pollue notre atmosphère. Donc, c'est pour ça les torchères. Mais si on réussit à vraiment l'utiliser comme faut, ben à ce moment-là, ça devient même payant.
Et là, comme on a des endroits, donc le centre de biométhanisation est une belle opportunité pour nous. Mais pourquoi, si ça semble si beau, il y a tant de gens qui semblent avoir peur de la construction d'un endroit de biométhanisation? On voit souvent ça, des gens qui veulent faire des pétitions, pas chez nous. Oui, on veut de ça, mais pas chez nous, pas dans ma cour.
Ben, je pense que c'est tout simplement le problème de pas dans ma cour. Hein, parce que forcément, des camions qui vont arriver avec des déchets, ben les déchets, ça sent quelque chose, hein? ça pue ça. Hein? Donc, le camion qui passe, ça laisse des odeurs. Bon, vous ne pouvez pas aller ailleurs, ben oui, mais là, c'est l'endroit qui est le plus accessible et mieux situé. C'est là, tu sais. Donc, j'ai l'impression que c'est plus du pas dans ma cour, tout simplement. C'est un gros problème, ça, à un moment donné, là, mais il faut à un moment donné que le gouvernement mette ses culottes et qu'il dise, regarde, c'est l'endroit qui convient le plus, donc on le fait là, tu sais.
Oui, parce que là, si on utilise aussi trop de camions parce qu'on met ça trop loin et qu'on leur dépense tout en diesel, c'est pas mieux.
Ouais, mais faut faire attention. Hein. C'est peut être très, très payant. Là. Par contre, il y a deux façons de traiter, de faire du gaz naturel. Je parlais tout à l'heure des lieux d'enfouissement. Maintenant, il y a des lieux d'enfouissement qui appellent ça des lieux d'enfouissement techniques. C'est-à-dire que au lieu de brûler les gaz qui s'échappent à la torchère, ils réussissent à le capter. Et en captant le gaz, ils réussissent à le traiter pour faire vraiment du gaz naturel, vraiment pur, là, comme je disais. Par contre, c'est une technique qui est à travailler, à élaborer, à améliorer, mais c'est possible de faire du gaz naturel à partir des lieux d'enfouissement aussi. C'est une autre technique. Par contre, il faut investir là-dedans, ça coûte des sous. Mais ça coûte moins cher que des usines où ils font avec des gros réservoirs qui font, ils appellent ça des digesteurs. Et tout un principe de évidemment, c'est technique, c'est très, très complexe à arriver à faire du gaz à partir de ça, mais ça coûte très, très cher. L'usine qu'ils veulent construire à Québec et à Montréal, ainsi de suite, là, comme je disais tantôt, ça va coûter beaucoup plus cher que prendre un terrain d'enfouissement, un lieu d'enfouissement technique et de réussir à capter le gaz pour, par la suite, le purifier pour le mettre dans le réseau d'énergie. Hein. Mais il en reste pour moi, c'est des défis techniques qui sont améliorés. Mais ici, au Québec, on a seulement même pas 10 digesteurs comme ça, alors qu'en Europe, ils sont pas mal plus avancés que nous. Il y en a, encore là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, là, mais il faudrait juste que je le trouve, me dire ça bientôt. Il y en a 12 000 biodigesteurs en Europe. Quand même. Ici, au Québec, oui, tu disais?
Oui, j'ai dit quand même, hein, c'est beaucoup.
Oui, effectivement, ils sont beaucoup plus avancés. Leur savoir-faire est beaucoup plus avancé et la technologie vient de là. Alors là, on a un problème. On importe leur technologie, mais étant donné que c'est en Europe, le climat n'est pas tout à fait le même. Donc, on a tout à s'ajuster, comme Saint-Hyacinthe, comme je disais tantôt, qui a été parmi les pionniers, Varennes aussi et Rivière-du-Loup, c'est les trois précurseurs. Donc, ils sont arrivés, eux autres, avec l'équipement qui arrivait d'Europe. Ils ont travaillé ça, mais là, ils ont eu des problèmes énormes d'ajustement. L'hiver, ça gelait, des morceaux de glace qui tombaient sur la tuyauterie. Il y a même un digesteur qui a gelé au complet. Ça fait qu'ils ont comme perdu leur production de gaz. Ils sont obligés de brûler comme ça avec des torchères, comme je te disais, pour ce qui est des centres d'enfouissement. Donc, c'est toute une patente organisée. Mais plus qu'on va le faire, plus qu'on va arriver à développer notre propre technologie et à s'améliorer. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a décidé, lui, de privilégier beaucoup les digesteurs, comme on va faire à Québec, plutôt que les terrains d'enfouissement, les lieux d'enfouissement techniques, comme je disais, qui coûtent moins cher à organiser. Mais il y a une question là-dedans aussi que j'imagine que le gouvernement, c'est pas pour rien qu'on a pris cette décision-là. Quand on pense qu'un lieu d'enfouissement, c'est que on met des déchets, OK, on peut capturer les gaz, en faire du biogaz, mais il reste pour moi, c'est des déchets. Il y a ces gaz-là qu'on peut réussir à capter, mais il reste pour moi qu'il peut y avoir d'autres problèmes. Dans certains quartiers de Montréal qui sont construits sur des anciens centres d'enfouissement, ils ont des problèmes de fondations qui se lézardent, de gaz qui s'échappent encore, de plein de problèmes. Donc, je pense que c'est un peu dans cette idée-là que le gouvernement a décidé de privilégier l'option digesteur qui coûte plus cher, mais qui, par contre, à long terme, amène moins de problèmes. Mais par contre, aussi au niveau des lieux d'enfouissement techniques, il y a une technique qui, au lieu de mettre ça carrément tout le monde ensemble, tous les déchets ensemble, puis d'attendre que le gaz s'échappe et puis avec les problèmes qu'on sait, il y a une compagnie qui a fait des... comme un peu comme des bacs dans le sol, là, comme des compartiments, et ils peuvent brasser ça, qui permet de faire des gaz beaucoup plus rapidement qu'avant, donc d'améliorer le sort des lieux d'enfouissement. T'sais. Autrement dit, ce serait moins pire un peu que les vieux centres d'enfouissement. Mais il reste pour moi que ça, c'est aussi une technique à développer. Où j'en suis dans mon mes choses à dire.
Pendant que tu le cherches, moi, je suis en train de me demander, parce que si c'est un gaz qui est si bon, qui est quand même de très bonne qualité à ce que j'ai pu remarquer dans les choses que moi aussi j'ai lues, c'est un peu surprenant aussi, peut-être une question de quantité ou de volatilité qu'on n'ait pas des autos au gaz naturel.
Bon, j'imagine que ça s'en vient, ça aussi, parce que c'est tout un réseau à mettre en place. Hein. Même quand ils ont commencé, les trois endroits au début, là, Saint-Hyacinthe, tout ça, Varennes et Rivière-du-Loup. Il n'y avait même pas de débouchés. En fait, il y en avait, mais très, très peu, eux autres, quand ils ont commencé. Ça, c'était pour traiter leur boue. Puis finalement, en traitant leur boue, ils ont dit, on pourra peut-être ajouter les déchets là-dedans. Et en rajoutant les déchets, ils ont fait, oh, ben, c'est notre gaz qu'on pourrait s'en servir pour brûler, pour chauffer nos installations. Et par la suite de ça, ils se sont rendus compte qu'en chauffant, ils sauvaient de l'argent. Donc, en améliorant leur technique, comme je disais, ils ont eu des problèmes, en améliorant leur technique, ils se sont rendus compte que c'était... Puis là, après ça, ben là, ils ont décidé, on pourrait peut-être le vendre à Énergie. Énergie, on dirait, non, votre affaire n'est pas assez pure pour qu'on puisse mettre ça dans notre réseau. Et nous, ça nous prend du 97-99%. Là, il fallait les convaincre. Donc, tout, c'est comme un jeu de domino. Donc, il faut réussir à, premièrement, l'extraire. Deuxièmement, réussir à le purifier. Ensuite, convaincre les acheteurs, parce qu'il n'y a pas rien que l'acheteur. Il y a aussi le transporteur qui avec leur pipeline, dit, hey, non, on ne mettrait pas ça dans notre pipeline, là, vous autres, là, ça, hey. Là, il faut les convaincre que la pureté du gaz est la même que le gaz naturel, comme je disais, 97-99%. Oui, OK, bon, vous voulez l'acheter? Ouais, ben là, vos débouchés, c'est quoi? Donc, c'est toute une affaire. Donc, pour se rendre aux automobiles, pour revenir à ce que tu disais, sûrement que c'est possible. Mais encore là, ça va prendre des endroits, des stations-service qui vont avoir des bornes, qui vont avoir des réservoirs, qui vont pouvoir stocker le gaz, donc le transporter, donc des camions, donc toute une filière à installer, à mettre en place, qui est pas simple, qui est pas impossible. Mais encore là, les compagnies vont se dire, oui, il y a l'électricité qui s'en vient. Donc, il y a d'autres techniques aussi. Donc, on va-tu mettre notre argent là-dedans? OK, on va faire un projet pilote. Tout est un peu comme ça. Donc, tu avances un petit peu, l'autre t'avance, il voit que tu avances un peu. Bon, on va l'essayer nous autres aussi. Et c'est vraiment comme ça que les choses se passent. Pour ça qu'il faut être patient. Il faut avoir aussi des directives gouvernementales. Comme le gouvernement a décidé, comme je disais, lui, de OK, nous, on y va sur la grosse technique avec les digesteurs puis toute la patente. On y va pas dans les terrains, dans les lieux d'enfouissement technique. Bon, mais les lieux d'enfouissement technique, un peu, là. Hey, wow, ça marche pas de même. Nous autres, on est capable de produire du gaz naturel aussi pur, puis à beaucoup moins cher, et puis pour beaucoup plus longtemps. Ah ouais, mais là, tu sais, alors c'est tout un débat social qui est à se faire, et ça avance un petit peu à droite, un petit peu à gauche, recule de deux pas au niveau technique. Alors, on a des problèmes, donc il faut régler les problèmes. Et tout ça va se mettre en place petit à petit, puis avec le temps, on va arriver à récupérer ces gaz-là. Et puis là, je nomme quelques places, mais là, c'est toutes les municipalités qui ont des déchets. Donc, c'est une mine d'or brun, pour revenir à ce que j'ai dit tantôt, incroyable. Donc, si on réussit à faire en sorte que tous nos déchets soient valorisés, puis là, je parlais des déchets de table, mais il y a aussi plein de trucs qu'on peut réutiliser, comme tous les déchets forestiers. Saint-Hyacinthe, eux, sont chanceux, ils ont un gros pur à côté d'eux autres, qui est très bon pour justement les produits qui sont là-dedans, le petit lait, là, pour aider à la fermentation, puis à vraiment arriver à faire des gaz avec ça. Donc, ça leur donne une chance. Mais tous ceux qui sont dans des lieux comme ça, qui ont quand même des usines autour d'eux, qui peuvent non seulement récupérer leurs déchets, mais en plus leur revendre par la suite, sont chanceux. Ils peuvent vraiment faire d'une pierre deux coups, comme je disais. Mais par contre, tout le monde a la possibilité de développer la technologie. Mais là, c'est sûr que là, il y a des sous, là. Il faut que le gouvernement aide. C'est pas tout le monde qui peut faire construire des grosses usines comme à Québec ou à Montréal, comme c'est projeté. Il y en a que c'est, bon, regarde, on est prêt à faire la job, mais on n'a pas assez d'argent. Donc, on va y aller avec, en attendant, le lieu d'enfouissement technique. Donc, on va réussir à capter nos gaz. Mais là, c'est quand même des sous, là.
Il y a quand même quelque chose d'intéressant sur un autre article que tu as sûrement déjà lu toi aussi, parce que je sais que tu es très proche de ces choses-là et que tu aimes ça. Il y a d'autres endroits à travers le monde où ils sont en train de refaire du pétrole, mais à partir de des algues et des bactéries là, qui font évoluer dans des genres de tubes. Et ça leur permet, au lieu que ça prenne des millions d'années à faire du pétrole, ils le font en quelques temps. Et la chose que je pourrais trouver intéressante, imagine qu'on fait un ensemble de recyclage avec tout ça. Là, j'essaie toujours de voir un monde meilleur, là, mais à un moment donné, ils doivent avoir des surplus quand ces algues-là et bactéries-là sont plus capables de produire ou quelque chose comme ça. Imagine qu'on les récupère puis on fait après ça du gaz naturel avec ça et on finit par revenir et faire une genre de grande roue. On aurait une énergie renouvelable incroyable. La quantité d'emplois qui serait créée serait complètement folle.
Absolument, c'est un rêve, et puis il faut être utopique dans ce genre d'approche-là. Il faut vraiment dire, OK, on aimerait ça avoir une énergie qui est plus verte, plus propre, plus humaine, autrement dit, qui pollue moins. Et c'est vers des trucs comme ça. Effectivement, moi aussi, j'ai lu des affaires sur les algues qui produisent du pétrole, qui servent à produire du pétrole, parce que c'est tout un procédé. Encore là, c'est encore à l'état d'expérimentation, ouais. Embryonnaire, oui. Ce qui fait en sorte qu'avec le temps, on va peut-être arriver à produire du pétrole. Pétrole, on va toujours en avoir besoin. Si c'est plus pour les automobiles, ça va être pour produire du plastique. Puis encore là, même le plastique peut être remis en circulation dans les digesteurs en question. Le plastique peut être réutilisé. Encore là, on vient de sauver pas mal de pollution là, si on réussit à mettre nos plastiques dans nos bacs bruns. On ne peut pas faire de compost avec, parce que si on fait du compost avec ça, là, on vient de scraper le compost épouvantable.
Oui.
Mais par contre, on peut faire du gaz avec ça. Donc, on peut... Je pense qu'avec le temps, là, pour revenir à ce que tu disais, dans un monde idéal, on va pouvoir, avec le temps, réussir à tout recycler nos déchets, puis d'enfouir, ça va être vraiment la dernière des choses, parce que même les matériaux de construction, il y a une technologie qui appelle ça du brûlage à sec, qui permet de brûler les matériaux de construction, les résidus de toutes sortes d'affaires, pour réussir à faire aussi du méthane avec ça. Là, c'est une autre procédé, une autre technique qui est encore embryonnaire, mais qui, j'espère, avec le temps, va pouvoir donner des résultats. Fait que moi, moi aussi, je suis pour un monde meilleur, je suis pour la valorisation de nos déchets. Même nous, personnellement, on en produit du méthane, les vaches aussi.
Mais oui.
Mettre un capteur sur chacune des vaches, je pense que ce serait difficile.
Ouais. Mais d'un autre côté, ils ont trouvé des algues qui peuvent faire réduire le méthane des vaches à presque 90% éliminé, qui en produisent 90% moins.
Oui, j'ai vu ça moi aussi à la semaine verte. Ouais, il en parlait à un moment donné, je trouve ça génial ça aussi, parce que le méthane, c'est très très pollueur, comme je disais, c'est 25 fois plus pollueur que le CO2. Donc c'est important si on peut l'éliminer de l'atmosphère. Puis il y a le pergélisol aussi qui se dégèle là, qui fait en sorte que il va être dégagé dans l'atmosphère, le méthane qui est contenu dans le pergélisol à cause du réchauffement planétaire. Donc, c'est important, ça aussi, de faire en sorte que si on peut le capter ou si on peut faire en sorte que peut-être cette source-là, on pourra pas la contrôler parce que c'est dans le nord, puis c'est difficile d'accès et puis c'est pas évident. Si on peut contrôler les autres sources de méthane qui s'égagent dans l'air en le captant, ben c'est un plus pour l'environnement, ça.
Eh bien, voilà, je suis 100% d'accord avec toi. Peux-tu nous rappeler, c'était dans quelle revue ton article?
C'est la revue L'Actualité du mois de novembre 2019. Ça a été écrit par, j'ai dit ça dans deux instants et quart, Jean-Benoît Nadeau. L'article s'appelle « Carburer aux déchets ».
Super. Eh bien, écoute, je trouve ça moins utopique quand même que l'entreprise qui veut aller creuser de l'or sur un astéroïde. Donc, voilà, on va se souhaiter une belle santé planétaire dans les années à venir. Gaston Côté, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Et on se reparle la semaine prochaine. Prends soin de toi dans le confinement.
Absolument. Salut, Michel.
Bye-bye. Voilà. Donc, prends ton gaz égal. Restez là. On va continuer avec Christian Duval pour la capsule à Chris. On se parle automobile tantôt. À ciao, ciao.
La seule radio commerciale basée à Lévis. Nike Radio.